Ils sont au centre de la vie de famille, ils sont un lien entre les générations, les grands-parents au cœur du dossier de la tête au carré cet après-midi. Une grand-parentalité qui porte les souvenirs de la famille, qui incarne aussi une modernité, un dynamisme longtemps ignoré par les psychologues et les sociologues. Les grands-parents reviennent en force depuis quelques années. Et avec mes invités, nous allons nous intéresser au rôle qu'ils jouent et à la place qu'ils ont dans notre société. J'attends pour en parler dès maintenant vos messages, vos questions, vos témoignages, franceinter.fr et le mot clé l'attaque. Et puis comme tous les jours cette semaine, nous retrouverons dans la dernière partie de l'émission la campagne officielle pour la présidentielle. Stéphanie Texier réalise cette tête au carré qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et nous parlons donc des grands-parents dans un instant dans le dossier avec mes invités que je salue, la sociologue et anthropologue Martine Segalen et le psychanalyste et écrivain Patrick Avran. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour.
Martine Segalen, entrer dans la grand-parentalité, c'est une étape qui marque un nouveau cap dans la vie. C'est parfois un choc pour certains grands-parents.
C'est une étape maintenant, je dirais, d'autant plus importante que les gens se marient beaucoup moins. Donc, être grand-parent, c'est tout d'un coup créer des liens juridiques d'ailleurs, avec ce petit enfant qui vient de naître et qui institue la famille et qui du coup institue des inconnus, enfin des gens qui n'avaient pas de lien officiel, en grands-parents maintenant et qui créent la famille ensemble.
Patrick Avran, les grands-parents ont un rôle de transmission évidemment très important dans la famille et pas seulement la transmission de leurs gènes, hein.
C'est la transmission à la fois de la grande histoire, c'est-à-dire qu'ils sont témoins de ce qu'ils ont vécu, et en même temps la transmission de la petite histoire, c'est-à-dire l'histoire de chaque famille, la façon dont la tradition se transmet d'une génération à l'autre.
On va en parler avec vous, bien sûr, dans un instant. Certainement des témoignages hein, de parents, de grands-parents, jeunes ou moins jeunes, avec donc les messages qui arrivent sur le site de la Tête au Carré.
Ooh.
Williams et Vilaine, Anybody Gonna Move.
La tête au carré sur France Inter.
Et ils sont 15 millions en France, ce sont nos grands-parents, longtemps oubliés de la société des scientifiques. Eh bien, ils sont aujourd'hui au cœur de la famille et des travaux de recherche en psychologie, en sociologie, en ethnologie. C'est le dossier de l'émission avec mes invités. Martine Segalen, vous êtes professeure émérite de sociologie et d'anthropologie à l'Université de Nanterre. Vous dirigez la revue Ethnologie française et vous avez publié en 1998 chez Odile Jacob et avec Claudine Athias Donfus, Grands-parents, la famille à travers les générations. Un ouvrage qui a été réactualisé depuis. Patrick Avran, vous êtes psychanalyste et écrivain et vous venez, vous, de publier Les Grands-parents, une affaire de famille aux presses universitaires de France avec les auditeurs donc, qui nous rejoignent. Questions et témoignages, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque pour parler donc des grands-parents. Martine Segalen, vous avez participé à une grande enquête sociologique sur 6 générations pour explorer l'évolution de la grand-parentalité et vous racontez justement dans votre livre qu'en 1998, lorsque les Nations Unies ont conduit un état des lieux sur le vieillissement, ils ne mentionnaient même pas les grands-parents dans leur index.
Oui, quand nous avons fait cette enquête avec mon ami et collègue Claudine Athias Donfus, on a nommé les grands-parents les grands oubliés.
Ouais.
Parce que l'attitude était de penser que, on était toujours dans le vieux schéma de vieillard, la grand-mère avec un bonnet de dentelle qui tricote dans son rocking chair, etc. Et d'autre part, je pense qu'on n'avait pas pris conscience de l'extraordinaire allongement de la vie qui fait qu'il y a maintenant 3-4 générations qui cohabitent. Et les sociologues, pour la France en tout cas, ou les pays européens, ne parlaient de la vieillesse qu'en termes de coûts. Est-ce que c'est mieux de garder les vieux à la maison ou dans des maisons, etc. Et on a découvert qu'il y avait ce nouvel âge qui venait s'intercaler dans le cycle de la vie, puisque l'allongement de la vie maintenant est bien connu, et qu'il y avait donc cet âge qu'on appelle plus les vieux, mais les seniors, qui sont entre 55 et 70,
oui,
ou 75
c'est
ans.
De jeunes seniors aussi.
De très jeunes seniors, qui sont tout à fait en bonne santé, qui, si Dieu le veut, disposent d'une bonne retraite, je dis si Dieu le veut, en espérant que nos futurs présidents nous les conserveront, et qui sont en bonne santé, qui sont dynamiques, et qui ne sont plus du tout l'image de la vieillesse telle qu'on l'imaginait autrefois, et qui sont des gens extrêmement investis, c'est ça qui nous a surpris, dans la garde des petits-enfants, la garde c'est-à-dire le soin, le fait de les garder pendant les vacances, et à travers cela, c'est complètement lié au travail des femmes et au travail des jeunes générations, et les grands-parents interviennent justement pour soutenir le travail de la jeune génération.
Ouais.
Donc ça, d'un point de vue sociologique, c'est quelque chose qui est fondamental dans notre société contemporaine.
Patrick Avran, ça y est, on les reconnaît, les choses ont enfin changé, la place des grands-parents est reconnue là aujourd'hui véritablement ?
Je pense qu'elle est reconnue aujourd'hui. Dans la psychanalyse, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que Freud, c'est un homme du début du XXe siècle, les grands-parents ne sont absolument pas présents.
Ouais, c'est incroyable.
Ils n'existent pas.
Ouais.
Ils sont même pas oubliés. Ouais. Ils sont pas là.
Mais c'est étonnant dans le récit familial quand même que les psychanalystes aient oublié les grands-parents.
Ils sont éventuellement présents uniquement dans le récit familial, mais comme quelque chose de très lointain, c'est-à-dire ils sont présents dans le fantasme, etc. Mais dans la réalité de la vie quotidienne, effectivement, de Vienne à 1900, ils n'étaient pas très présents dans la vie d'un couple. D'une part parce que, à cause de leur âge, et d'autre part aussi parce que les femmes étaient là pour s'occuper des enfants. Il ne faut pas oublier que les femmes ne travaillaient pas. Il y a une lettre remarquable de Freud à celle qui était encore sa fiancée à ce moment-là, où il lui dit, tu comprends, Stuart Mill, c'est quelqu'un qui est complètement en dehors de la réalité, tu penses ? Il imagine que les femmes pourraient travailler. On se rend compte que la théorie psychanalytique, elle est ce qu'elle est, mais le substrat, là où elle a été formée, là où elle s'est fondée, ça a quand même extrêmement changé. Et il y a effectivement, depuis, les psychanalystes ont découvert que les grands-parents existaient.
Il était temps, hein ?
Oui. Mais ils sont pas non plus très très présents dans leurs écrits.
Ouais.
Et ce qu'il y a de remarquable aujourd'hui, c'est effectivement la présence des grands-parents dans la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus uniquement ceux dont on va bientôt fleurir la tombe, mais ils sont là, présents aux côtés de leurs enfants, donc
absolument,
de leurs petits-enfants.
Ouais. Alors c'est ça, Martine Segalen, vous disiez, aujourd'hui ces grands-parents sont très investis, ils sont même suroccupés, parce que plus ils sont jeunes, ces grands-parents, et plus évidemment ils travaillent. Donc il y a leur travail qui vient s'ajouter au fait de devoir s'occuper aussi des petits-enfants.
Oui, enfin, on voit que quelquefois, enfin, c'est une situation extrêmement valorisée. Mmh. Et on peut entendre des gens qui n'ont pas de petits-enfants qui pleurent après le fait qu'ils ne sont pas petits-enfants, qui n'aient pas de petits-enfants. Mais il est clair que ça arrive à un âge où il y a un début de retraite, un début de recul des femmes elles-mêmes dans mmh. le monde du travail pour pouvoir laisser du temps justement pour s'occuper de leurs petits-enfants. Il faut dire tout de même qu'en France, alors je me place d'un point de vue sociologique, on a une situation extrêmement favorable puisque ce qu'on appelle la garde des petits-enfants en bas âge est largement assumé par l'État, ce qui n'est pas le cas dans d'autres sociétés européennes, si je pense notamment à l'Italie, à l'Espagne. Et là, la grand-parentalité est un peu contrainte et forcée mmh. avec un investissement presque quotidien.
Un devoir quotidien.
Alors qu'en France, c'est beaucoup plus autour de coups de main et autour de vacances. Et c'est là où je vais rejoindre ce que dit le psychanalyste, c'est que des souvenirs, une histoire, une espèce de saga familiale se crée grâce aux grands-parents quand ils peuvent recevoir ensemble des petits-enfants, des cousins qui continuent comme ça une sorte d'esprit de famille. Ouais. Alors je crois que, et c'est ça qui est intéressant du point de vue sociologique, la grand-parentalité est complètement articulée de nos jours, un, au travail des enfants, deux, à ce que fait l'État-providence, c'est-à-dire le soin collectif, la garde collective si vous voulez, et c'est là-dedans que se forme la grand-parentalité contemporaine.
Alors qui sont les grands-parents d'aujourd'hui? Une réponse, un élément de réponse offert par TF1 en octobre 2015.
Il vient avec moi tous les matins chercher le pain pour avoir ses bonbons.
Mais moi, je croyais que les grands-parents, ils n'étaient pas tellement d'accord pour que leurs petits-enfants mangent des bonbons comme ça. Alors toi, tu les encourages, hein ?
Les vacances avec les enfants et les petits-enfants, c'est un moment merveilleux aussi. Mais il faut dire que c'est parfois un moment un peu fatigant.
Ah bon ?
Pour nous, notre planning est réglé. Les vacances scolaires sont réservées aux enfants, aux petits-enfants.
Avec son mari, elle fait aussi la babysitter.
Pas toute la journée, forcément, le samedi soir, le dimanche, ça arrive en fonction des demandes. Oui, on est assez disponible avec mon mari pour répondre aux demandes des enfants.
Voilà, et les demandes sont nombreuses, Patrick Avran, même si vous expliquez aussi dans votre ouvrage à quel point les grands-parents déchargés de l'éducation finalement des enfants profitent du meilleur de leur relation avec leurs petits-enfants.
C'est-à-dire que les grands-parents, ils ont fait le boulot. Ils ont élevé leurs enfants et ils n'ont plus en charge l'éducation de leurs petits-enfants. Donc, il reste le reste. Le meilleur ou pas le meilleur, mais en tout cas, ils n'ont plus cette nécessité d'être ceux qui disent « voilà, c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement, c'est l'heure d'aller prendre ton bain ou d'aller te coucher ». Ils ont donc le reste. Et le reste, c'est quoi ? Bah, c'est tout ce que les parents n'ont parfois pas le temps de dire à leurs enfants. L'histoire, mais pas uniquement, les grandes réflexions sur le sens de la vie en fonction de l'âge de chacun. Et c'est donc parce qu'ils sont effectivement débarrassés de ce qui peut être entendu comme les contraintes de l'élevage.
Ouais. Sauf que Martine Segalen, certains grands-parents s'octroient le droit encore d'éduquer finalement même leurs petits-enfants. Hein. Tout n'est pas si délimité que cela.
Tout dépend, si vous voulez. Et ce qu'il faut voir dans la situation contemporaine, c'est que les générations, c'est-à-dire que ceux qui sont les grands-parents maintenant, qui ont 50 ans, 60 ans, ça a été la première génération de la modernisation, du divorce, des femmes au travail, de la libération des femmes. Et je pense qu'ils partagent beaucoup de valeurs avec la génération des parents, qui sont les trentenaires. Ce qui n'était pas le cas si on remonte deux générations en arrière, où il y avait des vraies différences. Donc, on peut imaginer que les grands-parents ne sont pas en contradiction avec l'éducation qu'ils veulent donner, aux normes qu'ils voudraient donner à leurs petits-enfants. D'autre part, là, j'entendais dans votre interview, hein, on passe des vacances en famille avec les parents et les petits-enfants. Ça, je crois que c'est pas une bonne chose. De mon expérience,
en tout cas,
c'est beaucoup mieux d'être grand-parent tout seul les petits-enfants.
Ah ben oui,
pour
bien
que,
sûr.
Justement, il n'y ait pas d'interférence dans les façons de voir, où quelquefois les parents sont au contraire ceux qui sont les plus stricts et les grands-parents ceux qui sont le moins, si vous voulez. Et puis, j'ajouterais une chose, c'est que les grands-parents ont la possibilité de dire non, d'abord. Quand vous êtes parent, vous pouvez pas dire non, je m'en occupe pas. Ils peuvent dire non, c'est leur droit. Ou ils peuvent dire, je fais une part dans ma vie et je suis pas corvéable à merci.
Oui.
Vous voyez, l'attitude des grands-parents est très différente. Certains sont très engagés et en sont très heureux. D'autres organisent leur vie en fonction d'autres intérêts aussi.
Il y avait un très bon article du Monde d'ailleurs ce week-end titré « J'adore mes petits-enfants, mais ils ne mangeront pas ma vie ». Donc c'est toute la question, Patrick Avran, de trouver la bonne place avec même ses petits-enfants d'ailleurs.
La bonne place avec ses petits-enfants, c'est d'abord celle effectivement du désir. C'est en fonction de chaque grand-parent. Comme il n'a plus cette obligation, il a le droit aussi de répondre non et de répondre oui, mais oui à quelque chose et pas à d'autres. C'est-à-dire qu'il n'a pas non plus l'obligation d'être celle ou celui qui va garder les enfants le soir. Il fait ce qu'il entend et ce qui lui plaît. Et c'est à partir du moment où il y a précisément cet échange qui est du côté du désir de chacun que ça peut fonctionner. Parce que les grands-parents, s'ils peuvent apprendre à leurs petits-enfants, ils peuvent aussi beaucoup apprendre de leurs petits-enfants. Aujourd'hui, ce sont souvent des petits-enfants qui apprennent à leurs grands-parents
les nouvelles technologies,
par exemple, ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau social, etc. Ouais. Ça marche dans les deux sens.
Il y a une peur, finalement, des grands-parents de ne pas être aussi à la page par rapport à cette nouvelle génération là, qui arrive ou pas, Martine Ségalen?
Bon, j'ai pas l'impression, non. Ils observent. Je crois qu'effectivement, il y a une coupure, là, pour le coup, mais qui se ressentira peut-être dans 20 ans, qui est la coupure Internet, smartphone, etc., qui fait que, à mon sens, la communication devient beaucoup plus difficile dès que les enfants ont un smartphone et une tablette la main.
D'où l'idée de profiter de ces petits-enfants
quand ils sont hors des outils, avant les outils, qui ne sont pas des outils de communication intergénérationnelle, à mon avis, mais au contraire, beaucoup plus portés sur le groupe des pères. Mais être grand-parent, c'est effectivement, comme le dit monsieur, profiter d'une relation qui est très très importante. Ouais. Et aussi, pour les petits-enfants, leur montrer l'enfance de leurs propres parents. Mmh. Montrer que leurs parents aussi ont pu faire des bêtises ou ont été jeunes aussi. Et ça donne cette profondeur.
Ouais. Alors le paysage n'est pas toujours aussi idyllique que cela. Un témoignage de Caroline qui nous dit « J'ai 40 ans, mes enfants ont 9 et 6 ans et je déplore le fait que mes parents ne soient jamais devenus des grands-parents investis. Ils habitent à 60 km de chez nous, sont à la retraite, aisés, en pleine forme et font leurs occupations et leur planning selon leur nombril. Quand nous venons les voir, ils sont débordés par le bazar ou le bruit. Ils n'ont jamais demandé à les garder pendant des vacances ou même simplement une journée. Les grands-parents d'aujourd'hui sont-ils plus égoïstes ?» Qu'en dit le psychanalyste Patrick Avran?
Je pense que c'est en fonction de chacun. La grande différence entre les parents et les grands-parents, c'est que les parents, en général, ils ont désiré des enfants. C'est-à-dire que ce sont les parents qui font des enfants. En revanche, les grands-parents, ils n'ont rien demandé. Les grands-parents, ils deviennent grands-parents sans qu'on leur ait demandé leur avis en général. Alors, soit ça rentre dans ce qu'ils attendaient, soit parfois, ça rentre pas dans ce qu'ils attendaient. Donc, c'est en fonction, je pense, de chacun.
Bon, d'où l'idée de refuser parfois le service familial, Martine Ségalen. Oui, il n'y a pas de service familial obligatoire.
Absolument, mais en même temps, il faut penser que les grands-parents, là on en parle vraiment de façon un peu désincarnée, les grands-parents sont quand même cette génération, je vais insister maintenant, qui est la génération de 68, qui sont les gens qui, les premiers, ont brisé tous les codes, ont divorcé, ne se sont remis en couple. Quelquefois ont eu des enfants d'un deuxième mariage et on a rencontré dans notre enquête avec Claudine des femmes qui disaient ben moi de mon deuxième mariage j'ai un enfant qui a 15 ans, voilà ma fille qui vient d'être mère. Bon, j'ai plus envie, j'ai envie de souffler un petit peu, si vous voulez. Et des couples qui se reforment aussi à un certain âge mais qui sont en forme. Bon, ben, envie de voyager. Et une fois encore, c'est leur droit. Il n'y a pas d'obligation, quoi qu'il y ait des obligations juridiques, évidemment, mais il n'y a pas d'obligation à être grand-parent. Ouais. Mais je crois que dans l'ensemble, il y a toujours des exceptions, bien sûr, comme celles que vous citez. Dans l'ensemble, il y a un fort désir d'être grand-parent. Et d'autant plus que l'âge à la naissance, maintenant, recule énormément. Incroyable, c'est-à-dire que on est passé maintenant autour de 32, 35 ans pour la première naissance, ce qui fait que les grands-parents qui étaient jeunes à un moment deviennent un peu moins jeunes au fur et à mesure de cette situation-là et se lamentent du fait qu'il n'y a pas de continuation de la génération.
Un message d'une grand-mère, Monique, qui nous écrit justement un mot très laconique. Les petits-enfants, deux points, dit-elle, chic, ils arrivent. Ouf, ils repartent.
Oui, chic, ouf, on a lu ça partout. Ça, c'est assez classique.
Patrice nous dit, au-delà des grands-parents, n'oublions surtout pas les arrière-grands-parents, derniers transmetteurs d'histoires vécues sur ce que furent, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale et la décolonisation. C'est capital lors des débats actuels, Patrick Avran.
Les arrière-grands-parents vont sans doute occuper la place que occupaient les grands-parents il y a quelque temps, c'est-à-dire oui, c'est que ce sont eux. La grand-mère des psychanalystes Françoise Dolto, quand elle raconte ce que sont les grands-parents pour les petits-enfants, elle dit « c'est avec eux qu'ils vont tout de suite comprendre ce qu'est la mort et on va bientôt aller fleurir leur tombe ». Depuis, il y a 15 ans d'espérance de vie en plus. Donc, ça a complètement changé. Et je pense que ça va être avec les arrière-grands-parents que ça va se passer de cette façon-là.
Ouais. Martine Segalen, vous avez beaucoup travaillé sur la dénomination des grands-parents. On va en discuter avec vous dans un instant. Parce que le nom qu'on donne, justement, au grand-père ou à la grand-mère marque l'entrée dans une nouvelle étape, une nouvelle identité. On en discute dans un instant. C'est le dossier de la tête au carré avec les messages des auditeurs franceinter.fr et le mot-clé la TAC. Le temps d'écouter Jane Birkin. Exercice en forme de Z.
Zazie à sa visite aux eaux, Zazie suçant son sang s'amusait d'un verre luisant d'Isidore Ison. Quand zut un vent blizzard fusant de son falzard, voici zigzagant dans les airs, Zazie semblait zèle l'oiseau des îles prises aux ombres. Papa Zazie, visionnaire de ce qu'elle sait de Mozart. Drôle de zigoton, zioteur de gens blasés, mateur de photos osées. S'éclate dans l'azur aussi légère que bulle d'Alcancelser. Elle visionne le zoo survolant chimpanzés, gazelles, lézards, zébubus et grizzlies d'Asie, l'oiseau des îles éprises aux eaux. Pas l'autre zèbre, bon le zigzazie, le fusillant de bisous, lui fait voir son bazar, son zip et son zippo, fondu de argent, scazo.
Extrait de son dernier album, Le Symphonique, Jane Birkin.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Et nous parlons donc des grands-parents avec mes invités Martine Segalen, directeur de la revue Ethnologie Française, directrice de cette revue, et puis Patrick Avran, psychanalyste et écrivain, Les grands-parents, une affaire de famille aux presses universitaires de France. On parlait des grands-parents très occupés. Vous incarnez ces grands-parents très occupés, Martine Segalen, et vous avez de nombreuses activités intellectuelles et sportives, parce que vous êtes une grande coureuse.
J'ai été une coureuse, pas grande, sinon par la taille, pas très véloce en tout cas.
Oui, mais vous avez toujours beaucoup couru et vous courez encore
couru,
d'ailleurs.
Je continue à courir, effectivement. Ouais, je m'accroche avec beaucoup de courage et de persévérance.
Une passion qui a donné naissance à votre dernier ouvrage d'ailleurs, Les enfants d'Achille et de Nike, éloge de la course à pied ordinaire. C'est aux éditions Anne-Marie et Métayer. C'est le regard de la sociologue sur ce phénomène de la course à pied.
J'ai vécu les débuts peut-être de la grand-parentalité, de la course à pied en même temps, d'une certaine façon. Et j'ai vu ce mouvement se développer. Des coureurs qui semblaient complètement fous et marginaux, qui sortaient dans les bois, qui quittaient la cendrée, qui poussaient la porte des stades. Et puis j'ai participé très modestement et j'ai vu ces hordes de coureurs qui se multipliaient. J'ai couru les premiers marathons de Paris et c'est un phénomène dont on disait, mais où est-ce qu'il va s'arrêter? Et il ne s'arrête pas, puisqu'il y a maintenant, s'il y a 15 millions de grands-parents, il y a 16 millions de coureurs.
C'est ça, exactement.
Alors il y a sûrement des coureurs parmi les grands-parents. Bah,
d'ailleurs,
évidemment.
On l'a vu au dernier marathon, il y avait une dame assez âgée qui a, qui
y a
couru.
Il y a cette coureuse extraordinaire qui s'appelle Cathy Switzer, qui a 70 ans, qui est la première femme à avoir couru le marathon de Boston alors que c'était interdit, qu'on avait éjecté du marathon, et qui a couru donc le 50e et elle a mis 4h20. Bravo Cathy Switzer.
C'est ça.
Et bravo les femmes.
Et on vous voit d'ailleurs dans ce documentaire
de Pierre Morat qui s'appelle Free to Run, dont je ne peux que recommander la vision et qui raconte l'histoire de ce mouvement de la course à pied. Ça. Entre des coureurs complètement fous comme Adam et Ève qui couraient dans les bois jusqu'à la marchandisation d'une activité. Voilà.
Bon, c'était un petit pas de côté hein, pour parler de, mais aussi d'une de vos activités. Combien vous avez de petits-enfants d'ailleurs, tous les deux, Patrick Avran, combien vous en avez vous?
Cinq.
Cinq, et Martine Segalen.
Et moi, et nous, huit.
Huit.
Enfin, pas avec Pierre, avec mon mari. Oui.
Donc ça occupe quand même beaucoup aussi. Il faut gérer l'emploi du temps avec les petits-enfants.
Ça nous a beaucoup occupé quand ils étaient plus jeunes. Maintenant, l'aîné ayant 26 ans et vivant aux États-Unis, les autres un peu dispersés aussi.
Patrick Avran, comment on gère trois petits-enfants, c'est déjà pas mal.
Non, cinq.
Cinq, pardon. Cinq. Oui.
Ça nous occupe beaucoup. Ça occupe beaucoup aussi mon épouse, qui est mathématicienne, et dont nos deux petits-enfants aînés sont actuellement en maths sup. Donc, elle reprend 50 ans après exactement les cours, la même classe qu'elle avait faite il y a 50 ans. C'est extraordinaire.
Ah, c'est formidable.
Alors, Sylvie nous dit ceci, dans les familles recomposées comme la mienne, on n'a pas de mots pour désigner les grands-parents non biologiques. Mon mari a deux grands-enfants qui ont eux-mêmes des enfants. Moi, j'ai vu naître ses petits, je les considère comme mes petits-enfants, mais je ne suis tout de même pas la grand-mère. Et c'est compliqué pour moi, peut-être moins d'ailleurs pour les enfants.
Alors, voilà une dame qui pose une vraie question. Parce que cette histoire de comment est-ce qu'on nomme les grands-parents est fort intéressante parce que la première chose qui arrive quand on apprend qu'il va y avoir une future naissance, si c'est le premier petit enfant, comment est-ce que il ou elle va m'appeler? Et j'ai fait une petite enquête là-dessus, une enquête historique. On sait que c'est assez marqué sociologiquement. Par exemple, dans les campagnes, on appelait les gens pépé, mémé.
C'est vrai.
Ensuite, c'est devenu un peu plus anglicisé, si j'ose dire, avec papy-mamie. Et maintenant, en fait, les grands-parents ont envie de s'individualiser, d'être appelés et nommés par quelque chose qui les spécifie. Et en même temps, j'ai eu le cas de femmes auprès desquelles j'avais fait des enquêtes qui avaient l'idée que c'était le petit enfant qui l'avait nommé. C'est charmant. Par exemple, je m'appelle Claudine. Bon, ben, il savait pas prononcer. Il disait Cotine. Donc, je suis devenue Cotine avec l'idée que, en fait, que l'enfant, le petit enfant vous a nommé, ce qui est l'inverse de ce qui se passait autrefois, puisque autrefois, c'était les grands-parents qui donnaient leur nom à leur petit enfant. Et donc, maintenant, il y a une variété extraordinaire de noms qui sont donnés et qui sont le signe de la qualité de la relation aussi entre les grands-parents et les petits-enfants.
Patrick Avran, ce qui est sûr, c'est que les grands-parents n'ont plus envie d'être appelés grand-père et grand-mère aujourd'hui. Hein.
Ah, ça dépend. Il y a des familles qui insistent au contraire là-dessus, justement, par pas avoir un petit nom qu'ils trouvent un peu moche ou médiocre.
Mais quand quelqu'un dit « c'est comme ça qu'il m'a appelé », en fait, c'est comme ça qu'il veut se faire appeler lui-même. C'est-à-dire qu'on voit que quand il y a un petit nom qui fonctionne, qui surgit, qui s'installe, c'est que d'emblée, il y a une relation affective qui se joue. C'est ça toute la différence.
Oui. Et c'est pour ça que cette dame, probablement, n'arrive pas à se faire nommer, parce que même si elle aime les petits-enfants en question, ils n'ont peut-être pas assez d'interaction pour que la relation se crée.
Et puis, c'est beaucoup plus facile de se faire nommer, de trouver un petit nom quand le bébé ne sait pas encore bien parler. Et c'est à ce moment-là qu'on surgit, que surgit ce petit nom qui va être présent comme ça, parce que ça touche en même temps au désir qu'il y a en commun. C'est comme ça que le bébé a envie d'appeler sa grand-mère, mais c'est aussi comme ça que la grand-mère entend que ce bébé l'a envie d'appeler. Et c'est tout ce que signifie...
Et dans ce jeu-là, absolument.
Oui.
Patrick Avran, en tout cas, dans votre ouvrage « Les grands-parents, une affaire de famille », vous dressez donc des portraits, vous vous inspirez de beaucoup de choses, évidemment, de votre pratique de la psychanalyse, mais aussi de la littérature, du cinéma, et de cette série « Downton Abbey », dont on écoute tout de suite un extrait.
J'espère que son arrivée signifie que tu vas l'annoncer publiquement.
Grand-mère chérie, vous savez que vos conseils me sont précieux.
Ce qui veut dire que tu n'en tiendras pas compte cette fois-ci.
Je ne veux pas que qui que ce soit me pousse à agir, que ce soit vous ou que ce soit lui.
Mais si tu n'étais pas sûre de toi, pourquoi diantre as-tu accepté d'être dans le lit de cet homme? À mon époque, une femme était incapable de ressentir la moindre attirance physique, à moins d'en avoir reçu auparavant l'autorisation de sa maman.
Je n'arrive pas à le croire.
Sérieusement, Marie, il faut que tu apprennes à dominer tes sentiments, avant que ce ne soit eux qui te dominent.
Voilà Patrick Avran, extrait de cette série qui vous a beaucoup inspiré pour parler des grands-parents. Et on voit donc là l'une des relations justement entre la grand-mère et sa petite-fille.
Oui. Ce qu'on entend dans ce que dit la grand-mère, c'est que précisément, elle dit le contraire de ce qu'elle ressent. Parce qu'on sait très bien qu'à son... à un moment dans la série, on le voit bien que cette femme, elle a précisément eu des désirs, bien qu'on ne lui ait pas autorisé. Mais ce qu'elle fait passer, c'est ça que j'ai trouvé passionnant dans cette série, c'est que c'est l'histoire d'une transmission d'une famille de l'aristocratie anglaise, mais parce que c'est beaucoup plus facile de trouver les ressorts de la transmission quand c'est comme ça évident. Mais en fait, c'est une histoire qui concerne tout le monde. Tout le monde, qu'il le sache ou pas, a une histoire familiale. Et ce que l'on retrouve dans cette série, c'est effectivement un personnage, celui de la grand-mère, qui tient tous les liens de la transmission et qui va expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire.
C'est ça, voilà. Et qui va aussi couvrir sa petite fille dans des situations très particulières.
Qui va couvrir sa petite fille parce que ce qui compte avant tout, c'est la tradition familiale, qui, en l'occurrence, puisqu'on est en Angleterre et dans l'aristocratie, est liée à un domaine, mais c'est pas uniquement ça, et qui va aussi pouvoir faire que la cohésion familiale continue.
Ouais. Et puis ne pas perdre la face aussi, hein. D'où l'idée de couvrir la petite fille en cas de nécessité.
Absolument.
Ouais. Cécile nous dit « Mes grands-parents se sont beaucoup occupés de leurs petits-enfants. J'ai 45 ans et ont donc beaucoup aidé mes parents. Par contre, mes parents n'offrent pas de les garder ou d'aider si ça ne rentre pas dans leur agenda. Et leur agenda est bien chargé. » Voilà. On se lâche sur franceinter.fr cet après-midi pour dire un petit peu ce qu'on pense aussi de ses parents, leur attitude par rapport aux enfants.
Moi aussi, j'ai trouvé cette série absolument passionnante, mais... est-ce qu'on peut vraiment y voir un modèle dans notre société qui est une société où tout ce qui faisait ces liens intergénérationnels liés à une propriété, à une société très patriarcale encore. On est dans une société maintenant de salariat, d'indépendance des générations. Et ça explique justement ce genre de comportement de parents qui n'ont, de grands-parents qui n'ont pas envie d'investir leur propre histoire auprès de leurs petits-enfants. Et en même temps, ce qu'il y a de plus étonnant, et ça c'est quelque chose qu'on a raconté dans un autre livre avec Claudine Athias Donfu et Nicole Lapierre, il y a tout de même malgré tout un esprit de famille qui reste et qui existe à travers justement le rôle de grands-parents jeunes et actifs qui sont là, présents auprès des petits-enfants. Je pense, moi, à l'importance quand même des vacances familiales et de lieux où les enfants de plusieurs frères et sœurs peuvent se retrouver et se créer une espèce de saga familiale avec des chansons qu'ils connaissent ensemble et qui constitueront en quelque sorte le folklore familial, même s'il n'y a plus aucun lien de transmission qui serait lié à de la propriété du patrimoine comme dans Downton Abbey.
Absolument. Mais
d'accord.
Downton Abbey n'est pas un modèle. C'est une façon de pouvoir montrer les choses. Mais ce qui se transmet, d'ailleurs je l'explique dans les livres, c'est aujourd'hui c'est pas du tout en règle habituelle, un château et des terres.
Oui.
Mais c'est ne serait-ce qu'une façon de parler. Il y a des mots qui sont propres à une famille.
Oui, c'est leur folklore familial.
Un folklore familial. Il y a, on pourrait dire, le désir d'être d'une certaine façon, un mode d'être au monde qui est propre à chaque famille et qui se transmet de cette façon-là. Alors, quand on prend quelque chose comme Downton Abbey, c'est plus facile de le voir parce que c'est le trait est forcé.
Absolument. Hein, voilà. Oui.
Alors, voici quelques messages. Yann nous dit « Quelle complaisance vis-à-vis des grands-parents. Ceux de mon fils sont absents la plupart du temps en vacances, sont sortis avec leurs amis. Ils ne téléphonent jamais, ne réclament jamais notre fils. Ils sont bien trop occupés avec leur nombril, comme a dit une de vos auditrices. Mon fils vit mal cette désertification familiale. Ce sont des grands-parents qui fuient leurs responsabilités. » Mais les messages sont sévères. Hein.
Attendez, ce sont vos auditeurs, la sélection que vous en faites.
Il n'y a pas de sélection. Il n'y a pas de sélection.
Ah bon, lisez tout ce que vous recevez. Ah,
exactement,
intégralement.
Vraiment. Alors,
au secours, j'appelle les grands-mères et les grands-pères qui sont contents et qui s'occupent des enfants pour donner leur témoignage aussi.
Oui, mais c'est intéressant quand même, Patrick Avrard, hein, de voir ce qui se dit là aussi, dans cette
revendication. C'est pas étonnant.
Je pense qu'il y a autant de grands-parents qu'il y a
de façon d'être grands-parents.
Mais oui et non.
Il
n'y
a pas de responsabilité.
Quand même, dans l'enquête qu'on a conduite avec le dîner Thias Danfu, bien entendu, on trouve des grands-parents qui refusent l'investissement. Mais on trouvait des grands-parents extrêmement investis et qui disaient même à l'époque qu'ils étaient eux-mêmes beaucoup plus investis dans la garde et la proximité avec leurs petits-enfants que ne l'étaient leurs propres parents. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est un phénomène assez neuf, si vous voulez.
Ce que les grands-parents, ce qu'on entend, ont du mal à accepter, c'est qu'on les prenne pour des personnes qu'il s'agit de faire travailler à certains moments. Quand une grand-mère ou un grand-père dit « je ne veux pas être la babysitter », ça veut dire qu'elle ne veut pas être celle à qui on demande à un certain moment de venir garder un enfant de telle heure à telle heure parce qu'il n'y a personne qui peut le faire à ce moment-là. Effectivement, habituellement, les grands-parents sont là quand on leur demande.
Écoutez ce très joli document, c'était en 89, Juliette Gréco, qui va nous parler de l'amour pour son grand-père. Elle était interviewée par Aline Payet pour France 3 Toulouse.
C'est marrant parce que je reviens sur cette famille. J'ai lu Jujube, vous avez écrit ce livre il y a 4 ou 5 ans, et vous parlez de votre enfance, de cet amour fou pour votre grand-père, tellement que je me suis dit comme ça, à l'espace d'un éclair, si elle est toujours en noir, c'est peut-être depuis ce jour-là, depuis que ce grand-père est mort. Vous l'avez tellement aimé, puis on dirait que c'est le seul homme, en tout cas dans l'enfance, qui est marqué.
Ah, les autres ont eu beaucoup de mal.
Ouais. Oui. Il était fort. Qu'est-ce qu'il avait, cet homme, pour ressortir au milieu de cette famille de femmes si
Je l'aimais. Je l'aimais. Je l'aimais d'amour. Je l'aimais totalement. D'abord, je le trouvais beau. Je le trouvais rassurant. Il était intelligent. Il était architecte. Il avait toutes les qualités requises pour faire un homme de bien. Il était gay. Et il m'aimait. Donc, que je ne voyais rien d'autre que cet horizon-là, qui était immense pour moi, parce qu'il était grand. Donc moi, je me sentais parfaitement féminine, probablement, et parfaitement protégée. Et tous les pauvres mecs qui sont passés là derrière, ils ont eu un mal. Je ne vous dis pas.
Voilà la relation entre Jules Gréco et son grand-père. Ouais. Je vois lever les yeux au ciel, Martine Ségalen, en l'écoutant.
C'est pas ce dont nous parlons, là. Ça, c'est une relation assez particulière.
Elle est intéressante à entendre. Elle est même carrément amoureuse, elle le dit.
Complètement amoureuse de son grand-père.
Œdipe chez le grand-père. Oui. Ça a un avantage, c'est-à-dire que c'est quand même... Il y a une génération d'écart, donc c'est plus facile de parler comme cela de son grand-père que de parler comme cela de son père.
Bah, sûrement,
On va pas faire l'analyse de Jules Gréco, quand même.
Colette nous dit nous venons d'être grands-parents. C'est le bonheur absolu de tenir cette petite fille dans nos bras et avons hâte de la garder et mettrons de côté nos activités. Ben voilà.
Voilà. Enfin, il y en a une qui répond. Enfin,
voilà. Oui. Mais ils sont nombreux, évidemment. Oui. Hein
cette découverte de la petite enfance, de la toute petite enfance, c'est quelque chose de très important. Souvent, quand les parents ont eux-mêmes travaillé, et ils ne récupèrent pas, puisque ce sont les parents les premiers qui sont là à garder l'enfant, mais ils retrouvent ces joies qu'ils avaient oubliées, ou peut-être à côté desquelles ils étaient passés s'ils travaillaient trop.
Eh bien, on va terminer sur cette note avec vos ouvrages. Grands-parents, c'est chez Odile Jacob, Claudine Athias Donfu et Martine Ségalen, et puis Patrick Avrane. Les grands-parents, une affaire de famille aux Presses universitaires de France. Merci beaucoup à tous les deux, et merci aux auditeurs pour les nombreux messages.
Merci à vous.
Merci.